Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment des théories du complot sur la météo sont passées d'Internet à des lois aux États-Unis. Un texte de Shannon Osaka du Washington Post paru le 16 juillet 2025 dans Le Devoir. Le procureur général de la Floride, James Hoetmeyer, a envoyé lundi une lettre à tous les aéroports publics de l'État pour les avertir d'une nouvelle loi interdisant toute injection de produits chimiques visant à modifier le climat ou les conditions météorologiques. Les contrevenants à cette loi seront coupables de crimes de troisième degré et passibles d'amendes pouvant atteindre 100 000 $, y écrit M. Hoetmeyer. Cette lettre semble corroborer une théorie du complot persistante selon laquelle l'ensemencement des nuages aurait pu jouer un rôle dans les récentes inondations qui ont fait au moins 132 morts au Texas. Cette loi floridienne et la lettre de M. Hoetmeyer qui la consacre sont les derniers exemples en date d'une vague de soutien de la droite aux théories complotistes qui se sont répandues sur les réseaux sociaux ces dernières années. Les conspirationnistes d'extrême droite affirment que des avions laissent dans l'atmosphère des traînées chimiques, chemtrails en anglais, qui peuvent modifier le temps qu'il fait, nuire à la santé humaine et même contrôler les esprits des gens. Selon eux, le gouvernement américain mène des expériences d'ensemencement des nuages, cloud seeding en anglais, qui serait responsable non seulement des récentes inondations au Texas, mais aussi de l'ouragan Helene en 2024. Aucune de ces théories conspirationnistes n'est vraie. Elles n'en sont pas moins en train de s'ancrer dans les plus hautes sphères gouvernementales. Plus d'une douzaine d'États ont présenté des projets de loi ou ont adopté des textes interdisant ce que M. Hoetmeyer a appelé les activités de géo-ingénierie et de modification de la météo. Plus tôt en juillet 2025, la représentante républicaine de la Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a annoncé qu'elle présenterait au Congrès fédéral des États-Unis un projet de loi similaire à celui de la Floride. « Nous devons mettre fin à la pratique dangereuse et mortelle de la modification de la météo et de la géo-ingénierie », a-t-elle écrit sur X. Quelques jours plus tard, l'administrateur de l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, Lee Zeldin, a déclaré que les personnes qui posent des questions sur la géo-ingénierie ont été diabolisées par les médias et par leur propre gouvernement. L'EPA a par la suite publié une série de pages web expliquant que les traînées de condensation des avions sont inoffensives. Dans sa lettre aux aéroports, James Hoetmeyer souligne que des rapports en cours d'élaboration montrent qu'une entreprise de modification climatique a mené des opérations d'ensemencement des nuages quelques jours avant les inondations meurtrières au Texas. « Je ne peux m'empêcher de penser que la modification de la météo pourrait avoir joué un rôle dans cette tragédie », a ajouté le procureur général républicain. Porté par les anti-vaccins pendant la COVID, le débat sur les traînées chimiques a commencé à la fin des années 1990, lorsque des adeptes de la théorie du complot ont commencé à propager l'idée que les avions épandaient des produits chimiques toxiques pour contrôler la population. Selon une étude publiée en 2017, 10% des Américains croyaient que cette théorie était tout à fait vraie, tandis que de 20 à 30% la jugeaient plutôt vraie. Le concept a connu un essor considérable pendant la pandémie de COVID-19, à mesure que la mésinformation se propageait comme une traînée de poudre sur Internet. Selon Holly Jean Buck, professeure en environnement et en développement durable à l'Université de Buffalo, dans l'État de New York, la pandémie a aidé les adeptes de la théorie du complot sur les traînées chimiques à s'organiser, car c'est à ce moment qu'ils ont commencé à s'allier à des groupes opposés aux vaccins contre le coronavirus. Ça leur a donné accès à ce réseau anti-vaccin, explique-t-elle. Ils étaient organisés à un point que les gens s'intéressant aux traînées chimiques n'avaient jamais été atteints auparavant. À la même époque, des climatologues évoquaient de plus en plus la géo-ingénierie solaire, qui consiste à injecter dans l'atmosphère des produits chimiques réfléchissant le soleil afin de refroidir la planète face au réchauffement climatique effréné. En 2021, l'Académie nationale des sciences a publié un rapport sur les axes de recherche possibles pour cette technologie. Le débat scientifique sur la géo-ingénierie a alors galvanisé celles et ceux qui étaient préoccupés par les traînées chimiques et l'ensemencement des nuages, qui voyaient un lien entre ces deux concepts. Des partisans de théories du complot, dont des personnes influentes telles que Nicole Shanahan, ancienne coulissière de Robert F. Kennedy Jr., affirme désormais que la géo-ingénierie solaire est déjà mise en œuvre et qu'elle est financée par le gouvernement fédéral. Début juillet 2025, un homme a été accusé de vandalisme sur un radar de station météorologique dans l'Oklahoma, dans le cadre d'une attaque qui, selon la station, pourrait être lié à des craintes de manipulation de la météo par le gouvernement. Pas d'expérimentation extérieure en géo-ingénierie. Les chercheurs en géo-ingénierie soulignent qu'aucune expérience ou recherche significative n'est présentement menée en extérieur. Si certains scientifiques bénéficient de financements pour explorer ces technologies, aucune n'a été déployée à une échelle susceptible de modifier les conditions météorologiques ou le climat. Cela ressemble à une préoccupation environnementale normale, avec un ton et des mots qui correspondent à la façon dont les gens s'inquiètent pour l'environnement. Sauf qu'il s'agit de quelque chose qui ne se produit pas, a fait remarquer le professeur de sciences géophysiques à l'Université de Chicago, David Keith, qui étudie la géo-ingénierie solaire. Bon nombre de ces théories complotistes reposent sur un fond de vérité, expliquent des chercheurs. Certains pays ont historiquement consacré des ressources et des fonds à des expériences de modification de la météo, et il existe une volonté de poursuivre les recherches en géo-ingénierie. Mais ce fond de vérité a été étiré pour aboutir à des affirmations méconnaissables et surtout fausses. Selon les experts, l'aspect psychologique de ces théories complotistes a deux facettes. D'une part, ces théories aident à rendre contrôlable quelque chose d'aussi incertain et variable que la météo. Les gens peuvent se dire « Ah, cet événement horrible est arrivé parce qu'une entreprise malhonnête a ensemencé les nuages », explique Dustin Tingley, professeur de politique publique à l'Université Harvard, co-auteur de l'étude de 2017 sur les croyances conspirationnistes. Pendant ce temps, les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus intenses et plus fréquents en raison du changement climatique causé par l'homme. Certains climato-sceptiques de longue date ont tendance à montrer du doigt les traînées chimiques ou l'ensemencement des nuages plutôt que de remettre en question les effets des émissions de combustibles fossiles sur le dérèglement climatique. Il y a cette volonté de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre plutôt que sur nous-mêmes et sur notre mode de vie, explique Dustin Tingley. C'est très courant. Alors que certains États américains s'efforcent d'interdire les activités de géo-ingénierie, la question des prochaines étapes se pose. Les avions, même ceux qui survolent la Floride, continueront de laisser dans le ciel des traînées de condensation inoffensives. Les inondations et les ouragans continueront de se produire, malgré la conviction ardente des conspirationnistes qu'ils peuvent y remédier. « Si j'ai raison, » dit M. Tingley, « ils vont mettre en place ces interdictions et il ne se passera rien. » C'était « Comment des théories du complot sur la météo sont passées d'Internet à des lois aux États-Unis », Un texte de Shannon Osaka du Washington Post paru le 16 juillet 2025 dans Le Devoir.
Des minières canadiennes s'intéressent au Groenland, un texte de Christian Vienberg de Bloomberg, paru le 1er juillet 2025 dans la presse. Le Groenland a accordé à une société minière canadienne l'autorisation d'explorer des gisements de molybdène, un métal essentiel à la production d'acier, afin de répondre à la demande croissante de l'industrie de la défense. Cette grande île arctique et ses richesses minérales sont devenues un enjeu géopolitique brûlant. Depuis que Donald Trump exprime ouvertement ses visées sur ce territoire outre-mer du Danemark. Au même moment, l'Union européenne, UE, a ciblé le Groenland comme une zone d'intérêt stratégique à exploiter pour mieux assurer son autonomie en matières premières. Greenland Resources, de Toronto, a annoncé l'obtention d'un permis d'exploitation de 30 ans pour le molybdène et le magnésium à sa future mine Malmbjerg dans l'est du Groenland. La société peut demander une prolongation de la durée du permis jusqu'à 50 ans. Selon la société minière, Malmbjerg a le potentiel de satisfaire toute la demande militaire de molybdène de l'UE durant des décennies, même si les budgets de défense augmentent. Greenland Resources revendique déjà des ententes avec des sidérurgistes européens. Actuellement, la Chine détient 87 % du marché du molybdène primaire, les États-Unis détenant les 13 % restants, selon la société. Nos progrès dans le secteur des ressources minérales sont une bonne nouvelle pour nous tous, a déclaré Naaya H. Nathanielsen, ministre groenlandaise du Commerce et des Minéraux, dans un communiqué. Les projets liés aux ressources minérales contribuent à l'objectif du gouvernement groenlandais de bâtir une économie autonome, profitant aux communautés locales par la création d'emplois. Amaroq Minerals, une autre société minière canadienne, a levé des fonds pour augmenter la production du principal gisement aurifère du Groenland, Nalunaq. En janvier 2025, le Danemark a annoncé qu'il soutiendrait la Britannique Greenrock, qui explore le sud du Groenland à la recherche de graphite, une matière première considérée comme essentielle par l'UE. Une Québécoise y cherche du lithium, la presse. La société montréalaise Exploration Brunswick, BRW.V, TSX de croissance 0,12 $, a lancé à la mi-juin 2025 une campagne de prospection et cartographie au Groenland s'étalant sur 6 semaines avec 4 équipes et 2 hélicoptères. L'initiative vise à explorer son portefeuille comprenant des centaines de cibles non testées. La première phase se concentrera sur la découverte de spodumen à Ivisaartok et les licences de Nuuk et Paamiut. En juillet, les équipes suivront les résultats de juin et exploreront les projets Disco Bay et Ummannaq, rapporte le communiqué. Les données recueillies guideront les programmes d'exploration avancée prévus pour août-septembre 2025, dont le projet Ingsland, récemment acquis. C'est une étape très excitante pour Exploration Brunswick, qui cherche à accroître considérablement ses activités d'exploration au Groenland, parallèlement à ses projets au Québec. Depuis 4 ans, nous avons développé une expertise interne en matière d'exploration de base pour le lithium. De nombreuses autres opportunités existent et Brunswick est bien placé pour faire des découvertes dans notre portefeuille, a dit le PDG Kylian Charles dans un communiqué. C'était « Des minières canadiennes s'intéressent au Groenland », un texte de Christian Vienberg de Bloomberg, paru le 1er juillet 2025 dans la presse.
Vous êtes les bienvenus, dit Montréal aux chercheurs américains. Un texte de Zachary Goudreau paru le 17 juin 2025 dans Le Devoir. Vous êtes les bienvenus. C'est le message que souhaite envoyer la ville de Montréal aux chercheurs qui envisagent de quitter les États-Unis pour s'installer dans un endroit qui offre la liberté académique mise à mal au sud de la frontière depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Montréal annoncera aujourd'hui un investissement de 100 000 $ dont la moitié servira à financer une campagne promotionnelle visant à positionner la métropole québécoise comme une option de choix pour le travail dans le milieu de la recherche et de l'innovation. Une initiative qui survient au moment où, selon un sondage mené en mars par le groupe de presse spécialisé Nature Portfolio, 75% des scientifiques basés aux États-Unis qui ont répondu au sondage envisagent de quitter le pays en raison des politiques mises en place par le gouvernement Trump qui minent la recherche dans différents domaines. On veut leur dire « Nous, on aime ça, la science. Nous, on croit à la liberté scientifique. Donc, si vous avez envie de venir vous établir chez nous, vous êtes la bienvenue », lance en entrevue le président de Montréal International, Stéphane Paquette, qui voit dans l'attraction de chercheurs de renommée internationale un facteur important au développement économique de la métropole. C'est un critère déterminant pour attirer des investisseurs étrangers ici, mais aussi assurer le développement et la croissance des entreprises montréalaises. Relève lui aussi au devoir le responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la ville de Montréal, Luc Rabouin. Ça fait partie de notre stratégie économique. Un safe space pour les chercheurs. Montréal a ainsi déployé une campagne d'affichage en cours depuis quelques semaines sur certains campus américains. Il s'agit notamment de ceux de Harvard, de l'Université de l'Illinois à Chicago et de l'Université de la Californie à Los Angeles, où les chercheurs seront exposés à des messages les incitant à opter pour la métropole québécoise. C'est toutefois avant tout sur le réseau social LinkedIn que misera la ville, en collaboration avec Montréal International, pour atteindre le plus grand nombre de cerveaux travaillant actuellement au sein d'universités américaines. Pour nous, c'était le véhicule le plus naturel pour aller parler aux chercheurs dans les universités américaines et tenter de les attirer dans la métropole québécoise, souligne M. Paquette. C'est le réseau le plus facile pour les rejoindre à faible coût, estime pour sa part M. Rabouin. Une vidéo mettant l'accent sur le travail de 3 chercheurs universitaires bien établis à Montréal sera ainsi mise en circulation sur cette plateforme à partir de la semaine prochaine. Parmi ces chercheurs, on compte Sacha Luccioni, une Montréalaise d'adoption qui se spécialise dans la recherche portant sur les conséquences environnementales de l'intelligence artificielle. Selon elle, au moment où de nombreux domaines de recherche en pleine effervescence sont ciblés par les politiques de Donald Trump, dont ceux du climat et des questions identitaires, Montréal a une occasion unique à saisir afin d'attirer une partie des chercheurs basés aux États-Unis qui sont actuellement en quête d'un lieu où ils pourront poursuivre leurs travaux en toute tranquillité. Je pense que pour le bien-être de la communauté scientifique, de devenir le « safe space » en quelque sorte des chercheurs, ce serait super bien pour l'image de Montréal, qui pourrait en tirer des bénéfices qui perdurent dans le temps, en s'imposant comme une option intéressante pour les chercheurs américains, relève ainsi Mme Luccioni en entrevue au Devoir. 5 bourses. La Ville de Montréal offrira par ailleurs 5 bourses de 10 000 $ à autant de chercheurs doctoraux et postdoctoraux demeurant aux États-Unis, à condition que ceux-ci déménagent dans la métropole québécoise afin d'y poursuivre leurs travaux. C'est vraiment important, la présence des étudiants et des chercheurs de partout à travers le monde à Montréal, soutient M. Rabouin. Le nombre de demandes d'admission d'étudiants étrangers dans les universités québécoises a diminué dans la dernière année, résultat de la mise en place de nombreuses politiques par le gouvernement Legault et Ottawa dans les dernières années. Pour nous, les étudiants étrangers, ils sont un atout, pas un problème, poursuit le chef de projet Montréal, qui entend continuer de mettre de l'avant que Montréal est une ville étudiante internationale. C'était « Vous êtes les bienvenus », dit Montréal aux chercheurs américains, un texte de Zachary Goudreau paru le 17 juin 2025 dans Le Devoir.
Poules, tigres, gendarmes, les risques des étiquettes parentales. Un texte de Rima Habib et Dr. Alexandre Hubert paru le 26 juillet 2025 dans La Presse. Rima Habib est professionnelle de recherche et en implantation de programmes parentaux, Triple P Canada, et le Dr. Alexandre Hubert est pédopsychiatre à Paris. Depuis quelques années, des termes ont émergé pour expliquer les différentes façons d'être parent. On les retrouve dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans certains discours professionnels. Cette tendance répond à un besoin collectif de mieux comprendre un rôle complexe en constante évolution. Le récent article de La Presse, « Le règne de l'enfant Dieu, l'enfant qui fait la loi », en est un bon exemple. Il aborde des enjeux familiaux à travers des images fortes. C'est compréhensible. L'éducation des enfants n'est pas chose simple et les repères d'autrefois ne suffisent pas toujours. Cela nous invite justement à faire preuve de plus de nuances et de bienveillance envers les parents. Le rôle de parent ne se résume pas à une image. Être parent, c'est vivre des joies, des doutes, des défis et des ajustements. Au fil du temps, les parents adoptent différents styles parentaux selon les contextes. La parentalité ne saurait donc se résumer à une seule image. En cherchant trop à classer les parents par des étiquettes, on risque de réduire leur vécu à une seule facette. Même bien intentionnées, les étiquettes peuvent peser lourd sur les parents. Ce ne sont pas tant les mots eux-mêmes, mais plutôt le sentiment d'insuffisance ou de jugement qu'ils pourraient induire. Elles désignent souvent des styles parentaux perçus comme peu optimaux, accentuant la culpabilité et ajoutant à la pression qu'ils subissent déjà. Selon l'enquête québécoise sur la parentalité de 2022, 80% des parents s'imposent une pression, en plus de celle de leur entourage et des réseaux sociaux. De plus, les étiquettes ont tendance à définir la personne plutôt que son comportement. À force d'entendre ces généralisations, certains parents finissent par s'auto-stigmatiser, intériorisant les messages sociaux négatifs, ce qui peut nuire à l'estime de soi et à la recherche d'aide. D'autres parents peuvent également se rattacher à un courant éducatif pour se rassurer. Ce phénomène, visible sur les réseaux sociaux, alimente parfois les divisions plutôt que la compréhension. En France, les débats entre partisans de l'approche Montessori et ceux qui la critiquent, les « ghetto-sori », en sont un exemple. Enfin, l'utilisation d'étiquettes peut figer des réalités parentales jusque-là fluides. En consultation, une mère nous confiait, citation, « Je sais, je suis une maman poule, alors je demande au papa d'être plus autoritaire. » Fin de citation. En s'identifiant ainsi, elle se cantonne à un rôle permissif et projette sur le père celui de la fermeté. Ces représentations peuvent engendrer des tensions, surtout si elles ne correspondent pas aux préférences des parents. Viser les pratiques plutôt que l'identité. La catégorisation peut s'avérer utile pour mieux comprendre et intervenir, notamment en santé mentale. Cependant, même dans ce domaine, les pratiques évoluent. On privilégie de plus en plus de parler de personnes vivant avec un trouble afin de reconnaître leur vécu dans sa globalité au-delà du diagnostic. Et si nous faisions de même dans notre manière de parler des parents? Au lieu de dire qu'un parent est ceci ou cela, intéressons-nous à ce qu'il fait. Mettre l'accent sur ses pratiques lui redonne le pouvoir d'agir, celui d'un adulte capable de s'ajuster pour mieux répondre aux besoins de son enfant. Il peut ainsi mieux identifier ses difficultés et choisir les pratiques qu'il souhaite renforcer ou améliorer. Éviter d'étiqueter ne signifie pas tout excuser ni écarter les discussions difficiles. On tente plutôt de considérer le parent dans sa globalité, avec ses forces, ses limites, ses valeurs et surtout avec la possibilité de progresser. Et les étiquettes positives? Souligner les qualités d'un parent, comme lui dire qu'il est patient ou sécurisant, peut lui faire du bien. Mais l'aider à décrire précisément ce qu'il fait bien est encore plus bénéfique car cela lui donne des repères clairs à reproduire. Un parent qui se sent soutenu, respecté et compris est plus enclin à demander de l'aide et à éduquer son enfant avec bienveillance. Il sera également moins tenté d'étiqueter son enfant et plus enclin à l'apprécier tel qu'il est. Décoller les étiquettes ensemble. La parentalité est un parcours fait d'ajustements constants. Les mots que nous utilisons pour parler des parents comptent. Ils peuvent soutenir ou fragiliser. En évitant les étiquettes parentales, nous laissons place à la nuance, à la compréhension et à la confiance. Si nous voulons que les enfants grandissent dans un climat sain et sécurisant, créons ensemble ce climat pour les adultes qui les élèvent. C'était « Poule, tigre, gendarme », les risques des étiquettes parentales. Un texte de Rima Habib et Dr. Alexandre Hubert paru le 26 juillet 2025 dans La Presse.